Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Depuis le début de cette crise, l'histoire occupe une place extrêmement importante. Mais bien entendu, l'histoire, ça n'est pas un bloc. L'histoire, c'est quelque chose qui se construit, qui se façonne et puis aussi qui se discute. D'où l'idée de repartir aujourd'hui sur l'histoire et notamment l'histoire de cette nation aujourd'hui menacée, l'Ukraine, qui a été remise en cause par Vladimir Poutine comme Adrien Toffolet vient de nous le rappeler dans cette revue de presse internationale. Nous sommes pour ce faire en duplex avec Jacques Rupnik. Bonjour Jacques Rupnik.
Bonjour.
Vous êtes historien, politologue, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po et ici même dans ce studio avec Yula Shukan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Ukraine, maîtresse de conférences en études slaves à l'Université de Paris-Nanterre, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. On vous doit notamment un livre intitulé « Génération Maïdan » aux éditions de l'Aube. Ce thème de l'Ukraine comme d'une nation factice, s'agit-il d'un thème neuf chez Vladimir Poutine? Qu'est-ce que ça signifie, Yula Shukan?
Ce n'est pas un thème neuf, effectivement. Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, est déjà revenu, enfin, à chercher à reconstruire l'histoire ukrainienne et à nous offrir son interprétation très, très partielle de l'histoire de ce pays. Il ne faut pas oublier que tout discours, en fait, sur l'historique de la construction nationale, nécessairement justifie les objectifs du présent. Donc, c'est au regard du présent que Vladimir Poutine reconstruit l'histoire de l'Ukraine en mettant en avant un certain nombre de faits qui peuvent être des faits avérés, mais aussi en omettant énormément d'autres dimensions dans cette problématique de construction nationale de l'Ukraine, donc depuis la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, à la chute des empires, l'empire austro-hongrois ou encore l'empire tsariste.
Alors, ce qui frappe, c'est l'utilisation par la propagande russe d'une carte géographique où on voit une Ukraine qui serait réduite à un petit centre, autrement dit, une manière de dire que tout le reste pourrait être annexé ou devrait revenir à la Russie. Qu'en est-il de la construction de l'Ukraine, de cette nation ukrainienne, Yula Shukan?
Mais ces cartes font partie effectivement de ce travail de propagande, mais aussi d'intimidation. Je pense que c'est pour faire peur, notamment dans ce contexte d'agression russe, essayer d'identifier les zones où l'attaque pourrait porter. Et après, si on revient à l'historique effectivement de la construction nationale, cette carte n'évoque pas du tout la période de donc du début des années 1917-1918, donc à la fin de l'Empire tsariste, où un État ukrainien indépendant, donc la République populaire d'Ukraine, se proclame en mars 1918. Et face à cette nouvelle création, qui fait d'ailleurs référence aussi à ce décret sur le droit des peuples à disposer, de même que les bolcheviks adoptent également, donc c'est face à cette nouvelle création étatique qui s'appuie elle-même sur toute une longue tradition, à la fois intellectuelle et politique, des réflexions, un travail de reconstruction d'une langue ukrainienne moderne à partir des patois. Donc face à la création d'une entité indépendante et qui prétend contrôler les frontières, en tout cas cette partie de l'Ukraine qui faisait partie de l'Empire tsariste, les bolcheviks sont obligés de créer aussi leur propre République socialiste d'Ukraine. Et ensuite, c'est toute cette dynamique guerrière, effectivement, avec des avancées et des reculs tout au long des lignes de combat entre les nationalistes ukrainiens, les bolcheviks, mais il y a également ce qu'on appelle le mouvement vert, donc le mouvement qui part des campagnes, et notamment aussi le mouvement anarchiste. Et donc, effectivement, toutes ces années de la guerre civile, les frontières sont mouvantes. Ensuite, il y a d'autres changements de territoire, donc suite à en amont de la Seconde Guerre mondiale et après à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais si on regarde tous les États post-soviétiques, en fait, y compris la Russie, sont le produit effectivement de ces événements historiques, donc de ces rapports de force aussi sur le terrain. Et tous ces États, depuis 30 ans, construisent quand même un vrai travail conséquent de construction étatique, de mise en place des institutions, de construction de leur narratif aussi historique. Et donc c'est tout ceci que Vladimir Poutine nie, en fait, en disant que l'Ukraine est une nation factice.
Et si l'on reprend donc la période antérieure, parce que il y a bien entendu de la propagande de part et d'autre, de la part de nationalistes ukrainiens comme de la part de Vladimir Poutine et de certains Russes. Y a-t-il par exemple une possibilité de dire que la fondation de l'Ukraine est antérieure à celle de la Russie? Il y a une comparaison par exemple entre Moscou et Kiev, l'histoire respective de ces deux villes. Que peut-on dire à cet égard, Yulia Choukhan?
Je n'appellerai pas ça propagande, effectivement, parce que dans ce cas-là, tout ce qu'on sait sur les Gaulois comme ancêtres des Français, ce serait également de la propagande. Je pense qu'on est plutôt dans un travail, effectivement, de construction d'un narratif justifiant l'existence d'une nation et surtout son intériorité. Donc on va, dans tout travail de construction nationale, s'appuyer sur ces épisodes historiques. Et pour l'Ukraine et la Russie, effectivement, il y a cette controverse, mais qui ne date pas du XXe siècle non plus. Déjà à la fin du XVIIIe siècle, l'Empire tsariste a essayé de récupérer l'héritage de Kiev, effectivement, donc de la Russe qui vienne, dont les origines remontent d'ailleurs à cette invasion des Varegs, donc des Normands qui viennent de Scandinavie et qui s'installent sur les territoires autour de Kiev et qui soumettent à leur domination les Slaves et qui donnent aussi à cet État leur nom, le nom de Russe qui vienne, qui n'a rien à voir avec la Russie et le terme russe tel qu'il a été traduit. Mais donc cette querelle historique, en fait, elle remonte encore, comme je l'ai dit, fin 18e, lorsque l'Empire tsariste a essayé de construire aussi son narratif historique et d'appuyer son ancienneté, donc de remonter jusqu'à Kiev et pas du tout jusqu'à la Moscovie. Et donc c'est ce qui est repris par la suite, puisque ce même narratif, on le retrouve dans la façon dont l'histoire est enseignée en URSS, pour justifier également, voilà, enfin, cette grande union dont là, tant la Russie que l'Ukraine font partie. Et aujourd'hui aussi, Vladimir Poutine, voilà, ça donne à ce travail de construction d'un argumentaire qui légitime ensuite ses projets politiques.
Jacques Rupnik, il y a la question nationale, la question des territoires, et puis il y a la question des langues. Et cette question, elle complexifie encore le projet de reconstruire ce qu'est l'identité nationale ukrainienne. Expliquez-nous pourquoi la question des langues est si prégnante en Ukraine, mais aussi plus généralement dans cette région.
La raison principale, c'est que la langue qui était parlée dans ce qu'est l'État ukrainien aujourd'hui, dans le territoire ukrainien aujourd'hui, était majoritairement le russe et, disons, la langue littéraire, la langue était le russe. Mmh. Et c'est surtout dans la partie occidentale, dans la partie appartenait à l'empire des Habsbourg, la ville de Lviv aujourd'hui qui était Lvov, ville polonaise sous la Pologne, et Lemberg du temps de l'empire autrichien, dans la Galice, voilà, il y avait un territoire où on parlait l'ukrainien beaucoup plus que dans les territoires de l'Est. Et le grand problème de la Russie de Poutine, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être ukrainien et se sentir ukrainien et appartenant à l'État ukrainien et ne pas être russophone. Et donc ils ont développé cette idée que russophone égale russe. Mm-hmm. Exige protection de la Russie, y compris manu militari, comme on le voit. Et donc ça, c'est la question linguistique qui a d'ailleurs évolué énormément. Quand je compare l'Ukraine d'il y a 30 ans et aujourd'hui, je vois une différence énorme, hein, la façon dont les élites ukrainiennes parlent l'ukrainien, dont l'ukrainien est utilisé dans l'enseignement, dans les médias, etc. C'est un changement considérable. Et c'est un changement que les Russes non seulement n'apprécient pas, mais qu'ils considèrent quasiment comme un affront. Et donc cette question de la... cette séparation des Russes et des Ukrainiens, en quelque sorte. Il y a un problème qui est l'origine commune, en quelque sorte. Là, ça vient d'être mentionné, ce qu'on appelle la Russie qui est vienne, Rousse. Le fait que les voix ont divergé par la suite, mais elles ont divergé il y a bien longtemps, elles n'ont pas divergé récemment, elles ont divergé déjà à l'époque des invasions mongoles, elles ont surtout divergé pendant la longue période où la grande partie de ce qui est le territoire ukrainien aujourd'hui, en gros du 16e au 18e siècle, faisait partie d'un État polono-lituanien. Et si on devait dire si l'identité ukrainienne s'est construite à certains moments dans l'histoire, ben elle s'est construite par rapport à cela aussi, par rapport à cette histoire dans l'ensemble polono-lituanien, sur laquelle je ne reviens pas, mais je la mentionne simplement pour dire c'est une histoire séparée de l'histoire russe. Et en gros, tout cet espace entre la Pologne et la Russie était un espace de rivalité entre la Pologne et la Russie. Hein, les Polonais sont arrivés jusqu'à Moscou en 1610. Et donc ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que Catherine II a conquis la Crimée, mais aussi une grande partie de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui. Mais c'était en quelque sorte trop tard pour créer une fusion en une seule nation. Et alors ce que les Russes n'ont pas, ou ce que certains Russes aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en particulier, ont du mal à accepter, c'est ces voix divergentes. Il y a peut-être une origine commune, il y a peut-être eu une religion commune aussi, la religion les a unis, mais ça ne suffit pas à construire une nation. Ça peut construire un récit et ça peut construire des justifications.
Et c'est la raison pour laquelle
à l'emploi de la force.
Et c'est la raison pour laquelle
absolument contestable, non seulement contestable mais répréhensible et condamnable.
Et c'est ce que l'on voit effectivement aujourd'hui à l'œuvre. Yulia Shukhan, c'est si différent que cela du russe, l'ukrainien?
Il y a à peu près, enfin, il y a beaucoup de ressemblances, surtout que l'ukrainien au XXe siècle, dans les années 30, dans le cadre des politiques de russification, l'ukrainien, comme d'autres langues des républiques de l'URSS, a été russifié, donc changement de règles de grammaire et même de prononciation, et donc à peu près entre 60-75% de ressemblances, entre le russe et l'ukrainien, mais dans le même temps, il y a un grand nombre de termes qu'un russe ne comprendrait pas en ukrainien et qui seront certainement de faux amis aussi. Donc c'est comme une proximité entre deux langues latines, certes, mais dans le même temps, on se comprend pas toujours entre les locuteurs de langue latine. Et je voulais juste complexifier un tout petit peu ce tableau de linguistique en fait en Ukraine, parce que certes, il y a une dimension régionale qu'on met souvent en avant, mais de façon parfois même caricaturale. Il y a quand même aussi un clivage ville-campagne dans les grandes villes, notamment Kiev, effectivement. Effectivement, jusqu'à il y a quelques années, Kiev restait quand même une ville très très russophone, alors qu'on est plutôt au centre, même centre-ouest donc de l'Ukraine. Il y a aussi une dimension promotion sociale. Le russe a été pendant de longues années une langue de promotion sociale, mais ce qu'on a vu, c'est qu'avec les débuts de la guerre du Donbass, en fait, il y a des phénomènes de réidentification, à la fois du point de vue de l'appartenance nationale, identification à l'Ukraine, et aussi du point de vue des pratiques linguistiques. De plus en plus d'Ukrainiens pratique cette ukrainisation en fait par en bas, passe à l'ukrainien tout simplement dans leur quotidien. Et effectivement, le changement est grand et c'est juste une petite touche personnelle. Hier, bien évidemment, j'ai essayé de faire le point sur la situation de mes amis à Kiev. J'en ai plusieurs qui sont russophones, qui sont originaires de l'est de l'Ukraine, qui vivent depuis longtemps à Kiev et qui sont bilingues en fait de par leur formation, mais qui ont décidé du jour au lendemain de passer à l'ukrainien suite à l'agression russe.
Et est-ce que cette question donc identitaire, de la construction identitaire, elle est aussi liée à une question religieuse? On parlait de l'église ukrainienne, par exemple. Est-ce que ce thème-là est une autre manière, vous parliez, de complexifier les choses, parce que on voit bien effectivement que la question nationale dans cette région-là est une question assez délicate. Est-ce qu'elle se complexifie encore avec la question religieuse, Yulia Shukhan?
Oui, elle se complexifie encore avec la question religieuse, puisque même, enfin, on va parler jusqu'en 2010, 2018, effectivement, la situation, il y a eu à l'indépendance de l'Ukraine, il y a eu le schisme au sein de l'Église orthodoxe, donc entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Kiev. Ensuite, à l'ouest de l'Ukraine, on a l'Église uniate, qui se soumet à l'autorité du pape, mais qui développe un certain nombre de rites plutôt de religion orthodoxe. On a l'Église ukrainienne autocéphale, celle qui s'est proclamée, enfin qui s'est créée effectivement au moment de cet éveil national.
Mais qu'est-ce qui les distingue, toutes ces églises?
Question d'autorité, bien évidemment religieuse, de paroisse, de rite, de soumission entre Moscou et Rome, par exemple, si on parle de l'Église orthodoxe, patriarcat Kiev ou patriarcat de Moscou. Mais en 2018, il y a une dimension aussi très politique, puisque cette question de la religion et de la volonté dans la construction nationale de l'appuyer sur une église autocéphale, elle a été effectivement ce projet de création de l'église autocéphale, évoqué à plusieurs reprises pendant ces 30 dernières années par les différents présidents ukrainiens. Elle a été concrétisée donc avec l'unification entre le patriarcat, l'église donc orthodoxe, patriarcat de Kiev, l'église autocéphale et l'église uniate, donc au sein d'une église commune qui est aujourd'hui l'église orthodoxe d'Ukraine.
Et cette question donc à la fois linguistique et religieuse, elle dessine finalement une nation qui a des contours mouvants. On voit aujourd'hui que l'on a affaire à des populations qui, semble-t-il, les unes regardent vers l'Europe, les autres vers la Russie. Non, vous faites non de la tête.
Non, je fais non de la tête parce que ça, c'est un peu une représentation effectivement courue de l'Ukraine. Mais la guerre a beaucoup changé beaucoup de choses depuis 2014. Et même si on regarde du point de vue, dans les sondages, ce que disent les Ukrainiens, ils sont dans leur grande majorité pro-européens, effectivement, et même pro-atlantistes. Et ça, c'est l'effet de la guerre. Mais on peut dire qu'il y a bien sûr des liens de proximité avec la Russie, qui se situe beaucoup plus à l'est de l'Ukraine. Mais malheureusement, ces liens, et ce que je vois aussi, parce que je travaille depuis très longtemps à Kharkiv, donc une ville qui est à la frontière à 40 km de la ville russe de Belgorod, ces liens de proximité sont en train de brûler sous l'effet de la guerre, en fait, de disparaître. J'ai recueilli aussi hier beaucoup de discours de haine envers la Russie, et non seulement la Russie de Vladimir Poutine, mais les Russes également. Ce silence du côté... Et on a vu, c'est des actes très courageux que de descendre dans la rue aujourd'hui en Russie et d'exprimer son opposition à la guerre. Mais la guerre atteint au plus profond la société. Je l'ai vu et d'autres mes autres collègues qui travaillent sur la façon dont la guerre façonne la société ukrainienne, la remobilise, parfois au dépend même de toutes ces diversités, en fait, qu'on apprécie beaucoup et qu'on mettait à chaque fois en valeur. Mais sous l'impact de la guerre, voilà, il y a une vraie, le travail de construction nationale, et cette question de l'Église et de création de l'Église nationale a été accélérée aussi sous l'impact de la guerre et par cette opposition vis-à-vis de la Russie.
On continue d'évoquer cette question de la construction nationale ukrainienne et puis voir aussi comment l'histoire plus récente, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par exemple, a pu provoquer à la fois un contraste, un schisme entre ce qui est aujourd'hui la Russie et l'Ukraine et aussi rendre le récit de ces deux nations plus compliqué encore à reconstruire. Nous sommes en compagnie de Jacques Rupnik, historien politologue, et de Yula Shukan, spécialiste de l'Ukraine et maîtresse de conférences en études slaves à l'université de Paris-Nanterre. 8h sur France Culture.
7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous remontons le fil de l'histoire d'une nation menacée, autrement dit l'Ukraine, en compagnie de nos invités, l'historien Jacques Rupnik et la maîtresse de conférences en études slaves, Yulia Shukan. Yulia Shukan, Vladimir Poutine a prononcé un terme très fort en matière de gouvernement ukrainien. Il a parlé de dénazification. Qu'est-ce que cela signifie pour lui ?
C'est un terme compliqué au sens où je pense qu'il y a beaucoup de références et beaucoup de confusion dans le discours de Vladimir Poutine. Donc on peut essayer de le démêler, à la fois en référence à un certain nombre de faits historiques, effectivement, et ensuite la manière dont ils sont instrumentalisés dans les discours, dans les discours politiques. Dénazification pour Vladimir Poutine veut dire que le régime en place à Kiev donc est illégitime parce que nazi, et donc ce régime est à changer. C'est peut-être un objectif de l'opération militaire qu'il est en train de mener. Ce terme n'est pas employé pour la première fois. Il a été notamment déjà utilisé au moment du Maïdan, donc ce mouvement populaire de 2013-2014, alors qu'il s'agissait d'un mouvement purement citoyen, enfin porté en grande majorité à 90% par des citoyens non affiliés à des partis politiques ou à des associations. Il a été disqualifié en tant que nazi ou encore fasciste, le terme utilisé dans l'espace post-soviétique en référence à l'Allemagne nazie, parce que il y avait des groupuscules d'extrême droite, même en partis politiques d'extrême droite, et des groupuscules néo-nazis qui faisait partie de ce mouvement. Ensuite, le terme a été même employé avant aussi, en 2004, pour disqualifier un autre candidat démocratique qui se présentait à l'élection autour de... et l'élection contestée aussi d'ailleurs... donc le régime sortant essayant de falsifier l'élection, et donc ça a donné lieu à une mobilisation appelée Révolution Orange. Mais il y a un certain nombre de références historiques derrière donc cette qualification, et donc c'est toujours un lien avec donc ces groupes d'extrême droite et la place de l'extrême droite dans en politique ukrainienne, puisque pour certains ces groupes se revendiquent de l'héritage des nationalistes ukrainiens des années 30. Et pour rappel, dans les années 30, l'Ukraine est partagée entre d'un côté l'URSS et de l'autre côté la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie. Mais ces nationalistes des années 30 mènent un projet, enfin, et ont un projet étatique d'État ethniquement pur ukrainien, mènent des attentats à l'époque contre le gouvernement polonais, et à l'approche de la guerre, suite à la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, ils passent un accord aussi avec l'Allemagne, en espérant obtenir de cette façon-là l'indépendance de l'Ukraine. Ils ne l'obtiennent pas, puisque à partir du moment où les troupes allemandes franchissent les frontières donc de l'Ukraine, à l'époque déjà soviétique, ces nationalistes allemands donc voilà se voient trompés dans leur projet. Sont oui, effectivement coupables des faits de collaboration par la suite, même tout au long de la guerre, dans différentes configurations. Mais il y a quand même une grande différence entre donc un passé certainement très douloureux, assez controversé, pas toujours assumé d'ailleurs en Ukraine, et ensuite l'usage politique de ce passé-là. Puisque si on regarde l'échiquier politique ukrainien, les partis d'extrême droite à la suite du Maïdan, n'avait que quelques députés sur 450 au Parlement ukrainien. Et donc, à cet égard, on ne peut pas parler, faire cette confusion entre le régime politique en place, le régime qui connaît régulièrement des alternances politiques. On l'a vu en 2014, on a vu une élection en 2019. L'Ukraine est une vraie démocratie, peut-être avec ses défaillances, effectivement, mais la qualifier de nazi est totalement inconcevable à mon sens. Et je voudrais attirer aussi attention, peut-être ça passe un tout petit peu, c'est un peu loin de nos esprits, mais quand Poutine dit dénazification et donc changement de régime politique, et c'est pour ça peut-être qu'il y a cette agression, attaque en ce moment contre Kiev, ça veut dire aussi, par la suite, si Poutine parvient à réaliser son projet, des répressions à l'égard des représentants de cette société démocratique qu'est l'Ukraine, et donc à l'égard de ces élites politiques, des représentants de la société civile. Et donc la question aussi qui se pose, c'est la question de la sécurité de ces personnes-là.
Jacques Rupnik, dénazification, c'est aussi le signe, la volonté, et puis aussi c'est quelque chose qui est restitué par les mouvements aujourd'hui de l'armée russe, c'est quelque chose qui vise à faire tomber le gouvernement ukrainien, et c'est la volonté assumée de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'on peut imaginer à cet égard?
Dénazification, je crois que c'est aussi, c'est non seulement une façon abjecte d'essayer de légitimer l'agression d'un pays voisin, mais c'est aussi une façon, dans le récit russe, vis-à-vis de la population russe, de renouer avec le récit de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le grand récit, là, c'est la grande guerre patriotique, voilà, c'est le grand moment. Les Britanniques parlaient de « finest hour » pour à l'époque de Churchill. Bon, ben, pour les Russes, le grand moment, c'est la Deuxième Guerre mondiale, la grande guerre patriotique et la victoire sur le nazisme. Et constamment, les références faites à dénazification comme ça, c'est une façon de renouer avec cette... Nous avons libéré la moitié de l'Europe et ils ne nous sont pas reconnaissants de cela. Il y a aussi une allusion... Enfin, pas une allusion... un renvoi des Ukrainiens à ce qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire qu'une partie des Ukrainiens avait collaboré avec les Allemands lorsqu'en 41, n'oublions pas qu'il y a eu le pacte Hitler-Staline de août 39 jusqu'à juin 41. Juin 41, quand l'Allemagne nazie lance ses troupes face à l'Union soviétique, c'est-à-dire entre en Ukraine, un certain nombre, faut pas généraliser, un certain nombre de nationalistes ukrainiens ont vu là un moment opportun pour réaliser leur objectif national, mais ils l'ont fait en collaborant, effectivement, certains d'entre eux, à la terrible politique de répression et le massacre des populations juives. Enfin, si on retient un mot symbolique, c'est Babi Yar, le grand massacre.
Rappelez-nous ce qu'était Babi Yar.
Babi Yar, c'est peut-être le plus grand massacre de populations juives. Plus de 30 000 juifs ukrainiens massacrés à Kiev. Babi Yar, c'est Kiev, c'est à Kiev, ont été massacrés par les Einsatzgruppen allemands avec l'aide de la police et de miliciens ukrainiens. Et donc, il y a eu d'autres massacres dans le reste de l'Ukraine, à Odessa, énorme massacre, des dizaines de milliers de juifs ukrainiens massacrés par les troupes allemandes, avec toujours l'assistance de collaborateurs ukrainiens. Et donc, oui, il y a eu 1 million de morts dans le massacre de juifs en Ukraine. C'est absolument oui. Quand on parle de la Shoah, certains ont parlé de la Shoah par balle. Oui, il y a l'extermination dans des camps de concentration. Déportation, mais il y a l'extermination directe. Là, c'est des massacres de masse. Timothy Snyder, qui a écrit un livre qui est vraiment qu'on peut recommander, qui s'appelle Les Terres de Sang, raconte l'histoire de cette région, pas seulement de l'Ukraine. D'ailleurs, ça va des pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, jusqu'à ce qu'est la Moldavie aujourd'hui. Eh bien, il appelle ça la terre de sang parce que sur une période d'une dizaine d'années, vous avez là 10, 15 millions de morts. Donc quand...
Mais alors précisément, Jacques Rupnik, chez Timothy Snyder, il y a une forme de continuité entre les crimes de Staline et les crimes d'Hitler, et ce sont des crimes qui ont touché, non pas forcément les mêmes populations, je pense notamment à la Shoah qui était spécifique, bien entendu, oui, aux Juifs, mais pour ce qui concerne les crimes de Staline à la famine ukrainienne... Oui. La famine ukrainienne, expliquant probablement, non pas l'antisémitisme bien sûr, mais expliquant la collaboration de certains Ukrainiens avec les nazis.
Oui, absolument. Dans les années 30, Staline lance la campagne de collectivisation et de découlakisation, donc la chasse à Koulak, et ça débouche. Alors que l'Ukraine était le grenier à blé, pas seulement de l'Europe, ça c'était avant la Première Guerre mondiale, mais c'était quand même le grenier à blé de l'URSS. Eh bien, avec cette politique, cette chasse au koulak, on a détruit l'agriculture ukrainienne et on a créé une famine en Ukraine. Là aussi, plusieurs millions de morts victimes de la famine, disons entre 1933 et 38. Et donc, vous avez dans les récits sur... on se renvoie, disons, deux récits sur le génocide. Il y a je simplifie à l'extrême, et on me pardonnera, le nationaliste ukrainien qui ira, mais les vrais responsables du génocide, c'est les communistes soviétiques, russes, avec leur politique, et ça c'est ce qu'on appelle le Holodomor, la famine ukrainienne des années 30, et les soviétiques qui renvoient à la figure, vous êtes co-responsable, ou vous êtes responsable du génocide juifs. Donc on se renvoie deux récits sur le génocide, et vous voyez comment Poutine essaye de jouer sur cette mémoire traumatisée de la Deuxième Guerre mondiale et sur, disons, cette compromission d'une partie du nationalisme ukrainien avec l'Allemagne pour... aujourd'hui, mais c'est ça qui est choquant et absolument scandaleux, faire un trait d'union entre ça, 1941 et 2020.
Oui, c'est absurde. C'est ce que vous disiez absurde. Effectivement tout à l'heure. Mais alors, Yulia Choukan, les choses aussi méritent d'être rappelées, puisque lorsque l'on évoque la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, les régions qui ont particulièrement souffert, qui ont apporté des hommes et où on s'est battu en Union soviétique, c'était particulièrement des régions comme la Biélorussie ou comme, par exemple, l'Ukraine. Alors, il y a eu des collaborateurs en Ukraine, il y a eu effectivement des Ukrainiens qui ont accueilli des nazis, il y a également des Ukrainiens qui ont servi dans les camps de concentration et qui ont donc participé directement au génocide des Juifs. Il y en a d'autres qui se sont battus et qui sont morts dans des proportions aujourd'hui inimaginables dans la guerre contre les nazis.
Si vous me permettez, je voulais juste peut-être d'abord, avant de répondre à votre question, revenir aussi à cette question de la Grande Famine, parce qu'à mon sens, pour comprendre le nationalisme ukrainien des années 30-40, et effectivement cet alignement sur l'Allemagne nazie, et l'anticommunisme des nationalistes, la Grande Famine est essentielle, certes, et c'est surtout sa spécificité, parce que si on se réfère aux travaux des historiens, ils nous ont montré que sa spécificité réside notamment dans cette association que Staline fait entre nationalisme et paysannerie. Les colas qui résistent à la collectivisation des terres serait infiltré par des nationalistes, notamment nationalistes polonais. Donc il y a toujours cette crainte du nationalisme. Et sa deuxième grande spécificité, c'est que les campagnes ont été bouclées, à la différence d'autres famines qui ont lieu aussi à l'époque en URSS. Mais revenons-en à la Grande Guerre patriotique, qui effectivement occupe une place extrêmement importante dans le récit de la victoire soviétique sur le nazisme. Et en effet, en Ukraine, on a vu à la fois ces phénomènes de collaboration avec l'Allemagne nazie, des unités, des Ukrainiens ont intégré des unités, soit dans l'armée, soit effectivement en tant qu'auxiliaire des unités SS, donc sur les territoires de l'Ukraine. Mais dans le même temps, la contribution de l'Ukraine soviétique à la victoire est extrêmement importante également. Les grandes villes telles que Kharkiv, notamment, que nous avons évoquées, se sont retrouvées en plein cœur donc de la guerre, bombardées, en grande partie aussi, beaucoup de destruction sur cette partie... partie est donc de l'Ukraine, et les Ukrainiens font partie de l'armée rouge, donc leur contribution à cet égard est extrêmement grande. Ce qui, à un moment, si je reviens dans le présent et dans les années récentes, la manière dont l'Ukraine d'aujourd'hui a essayé de réconcilier ses mémoires très contradictoires et ses faits de participation de part et d'autre, en fait, avec les uns et les autres dans la guerre, l'Ukraine essaye aussi aujourd'hui de faire tenir effectivement ces deux formes de participation, en mettant à la fois en avant l'héroïsme donc des Ukrainiens qui avaient combattu du côté de l'armée rouge, en insistant aussi sur l'apport des Ukrainiens en effet dans cette victoire, mais aussi en mettant en valeur la contribution des nationalistes également ukrainiens, en omettant certainement cette partie de violence commise à l'égard des populations civiles, juives notamment, mais également d'autres, polonaises, il ne faut pas l'oublier, mais en mettant en avant leur engagement pour l'indépendance. Et là, une fois de plus, le présent se saisit du passé, parce qu'on essaye de justifier aujourd'hui, notamment dans le contexte de la guerre que la Russie mène donc contre l'Ukraine depuis 2014, on essaye d'inscrire ces nationalistes et leur engagement au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc dans la continuité de ce grand combat que l'Ukraine mène aujourd'hui, depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. Et donc, une fois de plus, on voit, du côté ukrainien également, la façon dont on utilise le passé, on se réfère au passé pour mieux justifier, effectivement, et légitimer le présent.
Mais alors, est-ce que cette manière de reconstruire le passé pourrait convenir également pour la Biélorussie, pour la Moldavie, pour ces régions qui aujourd'hui semblent ou sont dites comme étant menacées par Vladimir Poutine, puisque comme on ne comprend plus précisément quels sont ses buts, on estime qu'un certain nombre de ces lieux pourraient être menacés demain par l'armée russe.
C'est moins vrai pour la... Enfin, c'est tout à fait si aussi vrai, mais peut-être dans une moindre ampleur, au sens où, avant 39, donc avant le pacte Molotov-Ribbentrop, une partie de la Biélorussie faisait aussi partie de la Pologne. Et là, les politiques polonaises d'assimilation et donc de répression des milieux nationalistes étaient beaucoup plus virulentes qu'en Ukraine, ce qui fait que, quand on arrive, en fait, au début de la Seconde Guerre mondiale, en Biélorussie, le mouvement national est beaucoup plus faible. Même s'il y a aussi des faits de collaboration et que les Allemands se sont appuyés sur des auxiliaires biélorusses, pendant la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, l'ampleur des opérations répressives, des opérations d'extermination, ne pouvait pas se passer sans auxiliaires et sans participation donc des locaux. C'est valable pour tous ces territoires donc de l'Ouest de l'Union soviétique. Et en Biélorussie, d'ailleurs, cette façon de disqualifier les opposants du régime de Loukachenko est toujours là. On les qualifie également de fascistes. C'est pas le terme de nazi qui est employé, mais de fascistes. Et donc, c'est les opposants d'aujourd'hui qui ont, pendant de longues années en Biélorussie, été disqualifiés de la même façon que l'État indépendant ukrainien et donc les régimes politiques qui se sont succédés, qui ont été disqualifiés par ce terme de nazi.
Mais alors, dans ces conditions, Jacques Rupnik, on voit par exemple qu'il y a la volonté de remettre la main pour la Russie sur l'Ukraine, sur la Biélorussie, c'est déjà le cas de fait, mais peut-être qu'une intégration supplémentaire est envisageable pour Vladimir Poutine, peut-être que c'est dans ses plans. Est-ce que l'idée, c'est de faire une seconde fois la construction de l'Union soviétique ?
Je ne pense pas que ce soit reconstituer l'Union soviétique, mais reconstituer quelque chose à qui ressemblerait à un empire russe, en tout cas dominé par les Russes et contrôlé par les Russes, certainement. Et on utilise, alors, il y a deux choses qu'on utilise visiblement dans le discours, c'est protection des Russes, des russophones menacés, et aussi la menace présumée pour la sécurité qui serait liée à des forces fascistes ou fascisantes, etc. Et d'ailleurs, là, on retrouve véritablement la continuité avec la pensée soviétique, parce que sécurité, on pourrait dire, mais qui vous menace, vous vivez dans un crime, mais alors parlons des garanties de sécurité, je sais pas, voilà, conférence sur la sécurité européenne, on peut revenir à Helsinki, conférence sur la sécurité européenne. Or, pour Poutine, sécurité égale contrôle. Sécurité égale contrôle, ça c'est l'ABC de l'approche soviétique. Donc on est en sécurité que si vous avez à Minsk ou à Kiev au pouvoir des gens que vous avez vous-même choisi, que vous avez vous-même mis en place.
Mais alors je vais vous poser à tous les deux une question naïve. Lorsque vous parlez d'empire russe, Jacques Rupnik, lorsque celui-ci a été façonné avec le nom d'Union soviétique, il y avait une idéologie. Ce que cette idéologie est devenue dans les faits, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y avait une idéologie. La refaire, cette construction sans idéologie, est-ce envisageable ?
Il y a une
quand je parle d'une idéologie, c'est une forme de religion séculière.
Oui,
il y avait l'idée communiste. Je ne dis pas évidemment que Vladimir Poutine n'a pas d'idéologie, ce serait absurde.
Oui. Non, l'idéologie, enfin disons, la religion séculière du communisme, non. Il y a l'empreinte du soviétisme, ce que j'ai dit sur la sécurité et le contrôle, ça c'est du soviétisme. Pour ce qui est de l'idéologie impériale, bah, c'est le nationalisme, la religion et ultra-conservatisme. Donc, on peut commencer par Dostoïevski, on a une longue lignée de la pensée eurasienne, et vous avez là l'idéologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'appuie effectivement sur quelque chose qui existe, sur une tradition intellectuelle et politique en Russie. J'ai le souvenir que Solzhenitsyn, qui pourtant était un adversaire résolu du régime communiste, considérait que l'Union soviétique devait être démembrée, mais que la Biélorussie et l'Ukraine devaient rester avec la Russie. Donc même pour des nationalistes russes tels que Solzhenitsyn, l'Ukraine indépendante, c'était quelque chose d'impensable. Voilà.
Mais Yulia Shukhan, le problème, c'est que les Ukrainiens, a priori, n'ont aucune envie de participer à cet ensemble-là. Alors peut-être que sous la terreur soviétique, peut-être aussi que, je ne sais pas, l'utopie communiste pour certains d'entre eux pouvait justifier, en tout cas pendant un moment, d'y adhérer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait les y faire adhérer?
Non, mais je pense que c'est la grande erreur, effectivement, dans les calculs de Poutine, même si on a du mal, effectivement, à se représenter avec précision ce qu'il a en tête. C'est peut-être qu'il pense, effectivement, qu'il y a toujours un projet commun. Il y a une grande proximité entre l'Ukraine et la Russie, un projet commun auquel les Ukrainiens pourraient aussi adhérer, basé sur la grandeur, sur la fierté nationale. Or, tant l'Ukraine, et d'ailleurs la Biélorussie, ils ont emprunté, il y a 30 ans déjà, des chemins de différenciation par rapport à la Russie au travers ce processus de construction nationale. Et donc, cette différence entre l'Ukraine et la Russie est beaucoup plus grande. Au début des années 2000, le second président de l'Ukraine disait que l'Ukraine n'est pas la Russie. Il avait tout à fait raison. Et je pense que la guerre a encore renforcé la distance entre la Russie et l'Ukraine, a renforcé tous les phénomènes de réidentification, a conforté le sentiment d'appartenance nationale. Et donc, toute cette construction nationale se fait aujourd'hui contre la Russie. C'était cet autre contre lequel l'Ukraine se construit. Et la guerre ne fait que renforcer la différence. Donc, à cet égard, moi, j'ai beaucoup de mal à voir ce qu'il y a derrière ce projet de mise en place d'un gouvernement fantoche, par exemple, parce qu'il faut non seulement conquérir le territoire, il faut le tenir. Il faut donner une idée, il faut fédérer les populations derrière, et je ne vois pas comment c'est possible en Ukraine.
Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, il y a des Russes en Ukraine, on le voit, mais il y a aussi des Ukrainiens en Russie, il y en a beaucoup, 3,5 millions. Que vont-ils advenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce contexte?
L'État ukrainien les a incités en tout cas à rentrer en Ukraine en les mettant en garde contre un certain nombre de provocations dont il peut faire l'objet et en se rendant compte de l'impossibilité pour l'État tout simplement de leur apporter assistance dans cette situation.
Mais ils sont rentrés ?
Non, bien sûr que non. Enfin, il y en a qui sont très bien intégrés en Russie et qui vont rester en Russie. Enfin, effectivement, cette proximité par en bas, sociale, par les trajectoires, le mariage, elle est présente. Mais on voit que parmi les personnes qui se mobilisent, il y a aussi des Ukrainiens, donc qui contre la guerre, je veux dire, en Russie, il y a aussi des Ukrainiens qui sont présents. Mais il y en a d'autres qui vont nécessairement aussi rester.
Mais ça veut dire que aujourd'hui, eh bien, ils sont tellement intégrés qu'ils se considèrent comme des Russes et qu'ils ne se sentent pas des protagonistes de ce conflit.
On n'a pas d'éléments sociologiques effectivement sur ce groupe-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des Ukrainiens aussi à l'Ouest, par exemple en Pologne. Il y a une grande communauté ukrainienne en France qui se sentent concernés, mobilisés, qui vont se mobiliser. Ils ne vont pas nécessairement rentrer en Ukraine, mais qui vont continuer à agir, à défendre l'Ukraine. Donc, on peut supposer que les Ukrainiens en Russie, ceux qui en tout cas s'opposent à la guerre, vont aussi, d'une façon ou d'une autre, essayer d'aider, ne serait-ce que leurs proches, même si ce n'est pas prendre position dans l'espace public.
Jacques Rupnik, un mot de conclusion. Est-ce que ceci peut peser, rendre difficile l'entreprise menée par Vladimir Poutine?
Certainement. Vous savez, je ne sais pas s'il peut conquérir militairement l'Ukraine, installer un gouvernement. Lui-même parle de gouvernement fantoche, mais là, pour le coup, ce sera véritablement le mot adéquat. On peut conquérir l'Ukraine, il ne pourra pas la digérer. C'est pas possible. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce que les personnes n'avaient réussi au 19e siècle quand les nationalistes ukrainiens commençaient à envisager l'identité ukrainienne. Il est en train d'unifier la nation ukrainienne. Ça, c'est un, pour être ironique, je dirais, c'est un exploit. Il est en train de réveiller l'OTAN. Il y a deux ans, le président français disait qu'il était en mort cérébrale. Il a réveillé l'OTAN, il a réveillé les Européens face à ce qui se passe. Donc je crois qu'il est en train de faire en Ukraine exactement l'inverse de ce qu'il prétend, c'est-à-dire rassembler les Russes et Ukrainiens. Il les a séparés de façon irrémédiable.
Merci Jacques Rupnik. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po. Merci. Yulia Choukan, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en études slaves à l'Université de Paris-Nanterre. On vous doit notamment Génération Maïdan aux éditions de l'Aube.